Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que depuis quelques années, j'ai l'impression de constater une forte poussée de salles de sport, de salles de gym, de centres de fitness, de centres de crossfit. Sur mon trajet entre chez moi, la maison et l'église, il y a 4 ou 5 nouveaux centres de sport, de fitness, de salles de gym qui ont vu le jour depuis 2-3 ans. Alors, est-ce que c'est un mode? Est-ce que c'est une découverte? Je dis tant mieux, la pratique régulière de sport est une bonne chose pour la santé et pour tout le monde. Bien sûr, ce n'est pas juste en payant un abonnement mensuel qu'on obtient la forme olympique, c'est en exerçant, c'est en s'entraînant, c'est en suant que l'on avance dans la santé et la forme. Et je dis ça, c'est un peu le sujet de ce chapitre, cet exercice. Un des versets clés, c'est verset 8, il dit à Timothée, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Et le mot « exerce-toi » ou « exercice », c'est « gymnasia », ce qui est donné « gymnase » et tout ça. Donc, Paul veut que Timothée fasse du crossfit spirituel, qui se forme. Il dit ça, sachant que la santé spirituelle d'une église est liée à la santé spirituelle de ses responsables. C'est une des pensées majeures de cet épître que Paul écrit à Timothée. La santé spirituelle d'une église est liée à la santé spirituelle de ses responsables. Alors Paul va jouer le rôle ici d'un entraîneur, d'un coach pour entourer, pour coacher Timothée, pour qu'il soit un bon ministre de Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut pour lui, d'après le verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Alors c'est vrai, ce passage s'applique directement, particulièrement au ministre de Jésus-Christ, au ministre de l'Évangile, ce qu'on appelle souvent des pasteurs, des serviteurs. D'ailleurs, le mot ministre, c'est le même mot diacre, mais ici c'est utilisé dans le rôle qu'a Timothée, de conduire cette église. Paul veut que Timothée soit un bon ministre de Jésus-Christ. Mais on sait aussi que cette correspondance, c'est pas une correspondance privée. Il a écrit à Timothée, mais c'est aussi une lettre ouverte pour tous les chrétiens d'Éphèse à lire, puisqu'il les salue tous à la fin de la lettre, que la grâce soit avec vous tous, il dit. Et donc, Paul veut que les chrétiens entendent ce qu'il a à dire à ce ministre, Timothée, parce que nous estimons que c'est utile, c'est important pour toute l'Église de savoir ce qu'on attend de ses responsables, de ses pasteurs. Quelle est leur mission? Quel est leur travail? Quelles sont leurs priorités? Alors ce matin, j'ai pensé qu'on pourrait appliquer ce texte à nous tous d'une manière spécifique, notamment comment prier pour les pasteurs? Comment prier pour les serviteurs de Dieu en France et dans d'autres pays? Comment les entourer, les encourager? Cette semaine, une sœur de l'Église est venue manger ici avec moi et Vincent, mon collègue pasteur. Elle est venue pour nous demander comment puis-je prier pour vous. Et j'étais en train de réfléchir à ce texte. Et la réponse à sa question, c'est vraiment ces versets. Comment prier pour les pasteurs? Eh bien, on a ce que Paul veut pour Timothée et on peut transformer ces choses en sujet de prière. Alors, pour rester dans l'image du sport et de l'exercice, j'ai pensé trois sujets de prière pour les pasteurs. Prier pour leur régime, qu'ils soient bien nourris pour bien nourrir les autres. Prier pour leur exercice, qu'ils s'entraînent à la piété afin d'être des modèles pour d'autres. Et prier pour leur endurance, qu'ils tiennent dans le temps, qu'ils persévèrent dans le ministère. Voilà ce que Paul veut pour Timothée, en tout cas. Et on peut regarder ces choses ce matin. Tout d'abord, prier pour leur régime, qu'ils soient bien nourris afin de bien nourrir d'autres. Quelqu'un qui fait du sport, c'est une des choses essentielles qui attire son attention. Il veille sur son régime. Il veille sur ce qu'il mange. Ou s'il prépare une course, peut-être qu'il va changer un peu d'alimentation pour être plus en forme. Et ce que dit les premiers versets, je vous remontre ce verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. En exposant ces choses, tu seras nourri toi-même. Paul veut que Timothée soit nourri des bonnes paroles de la foi et de la doctrine pour pouvoir ensuite nourrir le troupeau, paître le troupeau. Et ça, c'est une réalité. Il faut être bien nourri pour nourrir les autres. Mais c'est aussi, c'est en nourrissant, c'est en enseignant qu'on est soi-même nourri. Et je dirais ça, c'est le grand devoir et c'est la grande joie du travail, du ministère pastoral, de se nourrir pour nourrir les autres. Et c'est aussi comme le sport. Il y a un côté, quand on fait un exercice, quand on fait un entraînement, quand on court, ça épuise, ça fatigue. Mais en même temps, ça te remplit, ça te passionne, tu es content de l'avoir fait. Et c'est deux choses ensemble, ça t'épuise, ça fait mal, c'est dur, mais ça te remplit, ça te réjouit. Alors quand vous pensez aux pasteurs en France, en Algérie, dans d'autres pays du monde, priez qu'ils soient nourris eux-mêmes, nourris par des bonnes doctrines, nourris par la foi évangélique, nourris qu'ils aient accès à des ressources de qualité, qu'ils soient des lecteurs, des étudiants eux-mêmes de la Bible et d'autres ouvrages. Quand notre sœur Sarah part en Algérie, elle amène toujours de notre librairie, elle essaie d'apporter de bons ouvrages à des pasteurs là-bas pour qu'ils soient nourris, afin de bien nourrir les autres. Alors Paul va commencer ses versets en disant d'abord, évite la mauvaise nourriture. Évite la nourriture empoisonnée, évite le dopage, ça disqualifie quelqu'un. Il dit, par exemple, en verset 7, « Repousse les contes profanes de vieilles femmes. » Si c'était de nos jours, peut-être il dirait « Repousse les contes profanes qui circulent sur Facebook et Internet et concentre-toi sur la vérité de la parole. » Là, on peut prendre ces premiers versets parce que Paul va donner des exemples des mauvaises doctrines qu'il faut éviter, qu'il faut repousser, que Timothée va devoir exposer. En verset 3, il parle des faux docteurs, des faux enseignements qui prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc apparemment dans cette église, il y avait plusieurs responsables qui enseignaient des choses que Paul va dénoncer ici, qu'il associe à un abandon de la foi, même il a des doctrines de démons. La phrase est forte, ça nous surprend. Quand on pense à des doctrines de démons, on aurait tendance de penser à quelque chose qui pousse vers les plaisirs charnels. Et certainement, il y a des doctrines de démons qui agissent ainsi. Mais ce que Paul appelle doctrine de démons ici, c'est un enseignement ou une doctrine qui impose des règles, qui impose des interdictions, qui impose des privations aux choses que Dieu a finalement créées comme étant bon, qui sont des cadeaux, des dons pour ses enfants. Alors ces enseignements les interdisaient pour donner une apparence d'être plus spirituel. On repousse le mariage et les relations intimes dans le mariage, ou on rejette la nourriture, certaines nourritures pour avoir un côté plus spirituel. C'est Calvin qui commente ces versets et je pense qu'il a bien vu le problème de ces mauvais enseignants. Il dit « Les mauvais enseignants d'Éphèse essayaient de s'acquérir une justice pour eux-mêmes en s'abstenant des choses que Dieu a laissées libres. » Les mauvais enseignants d'Éphèse essayaient de s'acquérir une justice pour eux-mêmes en s'abstenant des choses que Dieu a laissées libres. Et Paul appelle ça un abandon de la foi, un abandon de l'évangile. Parce que c'est pas en se privant de certaines choses qu'on obtient une justice, c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on obtient une justice. Alors il appelle ça une doctrine de démon, ce légalisme qui essaie d'être juste par des comportements, des privations, des choses que Dieu ne demande pas finalement. Et il charge Timothée de nourrir l'Église et de se nourrir avec un enseignement qui est très différent que ce que proposent ces faux docteurs. Et d'ailleurs, c'est dans ces versets, c'est intéressant, c'est probablement ces versets 4 et 5 qui ont donné la pratique chrétienne de prier avant les repas. Je ne sais pas si vous priez avant de manger en famille. Beaucoup de chrétiens le font, c'est une pratique qui est souhaitable, qui est même recommandée ici. Et c'est une protection de vivre dans cette reconnaissance constante. C'est ça qui nous garde dans la vérité et dans l'évangile, quand nous pouvons toujours rappeler que Dieu nous donne tout et on n'est pas en train de mériter sa faveur, mais on peut simplement le remercier. Et il y a même une grande liberté qui est offerte dans ces versets. Tout ce que Dieu a créé est bon. Rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et Dieu préfère qu'on passe un bon moment en famille, autour d'un bon repas, et qu'on s'arrête pour le remercier, et puis qu'on se réjouisse ensemble de bien manger, que de se priver de toutes ces choses, en pensant être plus juste, plus spirituel qu'un autre qui participe. Et Paul conseille cette reconnaissance comme une protection contre les fausses doctrines. Donc voilà ce que Timothée va devoir éviter, la mauvaise nourriture, de le manger lui-même et puis de le dispenser, et plutôt mettre l'accent sur bien nourrir l'Église. Et il me semble que ça, c'est vraiment au cœur de sa mission, au cœur du ministère pastoral, comme le mot même indique, de paître un troupeau, c'est de nourrir le troupeau. Et vous voyez à quel point Paul insiste là-dessus. Verset 6, expose ces choses. Verset 11, déclare ces choses, enseigne-les. Verset 13, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Alors, quand il dit applique-toi à la lecture, de quoi il parle? La lecture personnelle de la Bible, certes, mais beaucoup pensent, la plupart des commentaires estiment qu'il parle plutôt de la lecture publique de la Bible pour enseigner l'Église. Vous rappelez que c'est une époque où ils n'ont pas forcément les Bibles à 1,50 €. Ils n'ont pas les smartphones où ils peuvent lire leur Bible. Beaucoup de chrétiens, et c'est notamment la lecture publique qu'ils vont découvrir et apprendre la Bible. Et donc, Timothée est appelé à s'appliquer à ces choses, à lire la Bible et après trouver un enseignement et des exhortations pour l'Église. Et c'est ce verset qui influence grandement le format de nos cultes évangéliques, où, qui sont dédiés à une grande partie à la lecture et à l'explication des textes, comme je suis en train de faire en ce moment même. Verset 15, il va encore insister. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Et puis enfin, verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Alors, toutes ces exhortations de Paul à Timothée mettent vraiment l'accent sur le régime spirituel qu'il peut offrir à l'Église. Je compatis et je salue le rôle des mères de foyer qui doivent nourrir leur famille tous les jours. j'aimerais vous féliciter et vous honorer en ce moment. C'est peut-être un travail ingrat parfois, mais c'est précieux. Mais il faut penser à tout. À nourrir sa famille tous les jours, c'est tous les jours. Il faut, des repas variés. Personne n'aime manger la même chose tous les jours. Les enfants commencent à se plaindre. Il faut des repas équilibrés. 5 fruits et légumes par jour, tout ça. Après, les enfants n'aiment pas manger les légumes, donc parfois il faut être astucieux pour plaire à leur goût et faire passer les vitamines et les choses qui donnent la santé. Quand les enfants grandissent, il faut une quantité suffisante. Les ados mangent beaucoup, alors eux, ils réclament, et donc il faut penser à la quantité. Mais quand il y a un bébé à côté, il faut mouliner là aussi le repas de bébé. Donc il faut que le bébé a, lui, un repas. Et puis les jeunes ont d'autres choses. Et ça, elle va passer la soirée dans la cuisine. Le repas va vite être mangé. Et puis il faut recommencer le lendemain. Et ainsi de suite. Je compatis, je salue leur rôle. Et c'est une belle image aussi de la vie d'église. Donc, priez pour les pasteurs qui sachent bien nourrir, se nourrir et nourrir le troupeau. Ensuite, Paul va exhorter Timothée à l'exercice. À partir du verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. » Je pense que le programme national de santé, ils l'ont formulé comme ça, manger et bouger, non? Manger et bouger. Alors, si on fait que manger et on ne bouge pas, c'est pas bon, parce qu'on grossit. Si on fait que bouger sans manger, c'est pas bon parce qu'on s'affaiblit. Donc, il faut manger et bouger. Alors, on a parlé de manger d'abord, et maintenant, il faut bouger. Et il faut s'exercer, il faut s'entraîner. Il faut l'exercice. Si on ne fait que manger spirituellement, et sans mettre en pratique, ça c'est un problème. Et c'est parce que Dieu demande aux pasteurs de simplement étudier pour eux-mêmes la Bible et devenir des grosses têtes théologiques. Il faut pratiquer. Il faut que la vie reflète ces doctrines. D'ailleurs, dans le chapitre précédent, il avait rappelé l'évangile, les grandes vérités de l'évangile à la fin du chapitre 3, ce mystère. Mais il appelle ça le mystère de la piété. C'est les vérités au cœur de l'évangile pousse à la piété. Ce n'est pas juste des vérités théoriques, c'est des vérités qui donnent la piété. Quand on médite ce que c'est, que Dieu a été manifesté en chair, ça veut dire que ma vie, mon corps, ma chair là aussi, doit ressembler à Jésus-Christ. Et c'était le souvenir de la Sainte Cène ce matin. De penser qu'il a été justifié par l'Esprit, que Jésus a été validé dans ses enseignements et dans sa résurrection. Qu'il était vu par les anges, qu'il est prêché aux nations, qu'il est cru dans le monde, qu'il était élevé dans la gloire. Ces choses, quand on médite chacun, ça doit nous pousser à vivre une vie différente, une vie nouvelle avec cette nouvelle nature. Et justement, il souligne dans les premiers versets que l'hypocrisie est une marque classique des faux docteurs. Ils enseignent plein de choses, mais leur propre conscience, ils l'ont comme brûlée. Flétris, et donc ils ne peuvent plus voir que dans leur propre vie, il y a des choses à changer. L'hypocrisie a été un grand problème, mais ça reste un grand danger quand les responsables d'église disent une chose et vivent autrement. Donc il faut la piété, il faut cet exercice qui s'entraîne à la piété. Alors c'est quoi la piété? C'est un mot peut-être pas dans notre vocabulaire de tous les jours. La Bible s'en sert, c'est quoi être des gens pieux? Ça peut-être donne une image des monastères, mais il faut revenir à ce que Paul demande à Timothée. La piété, c'est notre foi mise en pratique, c'est cette relation avec Dieu. Tous les chants que nous avons chantés ce matin sur la sainteté de Dieu et notre désir de vivre dans sa présence et de refléter sa sainteté, c'est ça la piété. La piété, c'est vivre notre vie entière, consciente de la présence de Dieu, consciente de sa sainteté, son regard sur nous. La piété, c'est entretenir une relation avec Dieu. On dit souvent, tous les médecins le disent, la santé physique, si vous voulez la santé, la meilleure chose pour la santé, c'est la pratique régulière d'une activité physique, du sport. Et c'est pareil pour la santé spirituelle. la pratique régulière des choses que Dieu a mises à notre disposition. C'est comme ça qu'on entretient notre forme spirituelle. Et Paul va souligner que c'est plus important même que l'exercice corporel. C'est un bon rappel pour notre époque, notre culture, qui aime beaucoup le sport, et c'est très bien. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais c'est relatif. C'est bien le sport, mais la piété, c'est beaucoup plus important parce qu'elle fait du bien dans cette vie, comme le sport, mais la piété fait du bien dans la vie à venir, l'éternité, que le sport ne fait pas. Alors je vous exhorte, je vous encourage, pour tous les passionnés de sport, c'est très bien, continuez votre passion du sport, mais soyez autant, bien plus passionnés par Jésus-Christ. Vous connaissez le résultat du match d'hier soir? Vous connaissez tous les chiffres, tous les détails, tous les joueurs? C'est très bien. Maintenant, exercez-vous aussi à connaître aussi bien la Bible et la personne de Jésus-Christ. Et il est aussi passionnant. Voilà ce que Paul, l'entraîneur, dit à Timothée. Exerce-toi la piété. Entraîne-toi pour mettre en pratique les vérités que tu enseignes. Ça va être capital pour la vie d'Église. Mettez-vous à la place de Timothée. Il a un grand défi devant lui. Paul vient de le laisser à Éphèse. Paul est parti. Heureusement, Paul va revenir. Il dit jusqu'à ce que je vienne. C'est déjà ça qui va encourager Timothée. Il n'est pas tout seul. Paul va revenir. Mais en attendant, il a une mission, un défi à accomplir. A priori, il est jeune, puisque Paul dit que personne ne maîtrise ta jeunesse. Il doit écarter les mauvais enseignants. Certaines probablement plus âgées que lui. Il doit mettre en place des anciens. Il doit mettre en place des diacres. Il doit enseigner une bonne doctrine. Il doit remettre en place un régime de bonne doctrine auquel cette église n'est pas habituée. Lui n'a pas forcément la carrure de l'apôtre Paul, avec toute l'autorité qui vient d'un apôtre et l'expérience. Alors comment il va faire tout ça? Comment il va pouvoir aider, coacher, conduire cette église? Et Paul va l'encourager en disant, Timothée, ton autorité va venir principalement de ton exemple, de ta piété, du modèle que tu peux être pour les autres. Il ne met pas les qualités sur ses capacités de gestion organisationnelle. Il met l'accent sur le modèle de sa piété qu'il peut avoir. Verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà les choses au cœur du ministère pastoral. Cinq domaines qu'il lui donne à travailler, parole, conduite, amour, foi et pureté. Je me dis justement, c'est du crossfit. L'idée du crossfit, c'est un entraînement croisé. C'est travailler différents muscles du corps pour qu'il y ait un équilibre, pour travailler l'ensemble. Et donc, Paul va lui donner cinq muscles ou cinq aspects à travailler, à veiller. Sa langue, sa parole. Comment il parle aux autres, maîtriser sa langue, c'est déjà un grand défi de maturité. Sa conduite, son comportement, comment il vit en public, en privé, comment les gens le voient. Son amour, c'est-à-dire sa relation avec les autres dans l'église, cet amour fraternel, agapé, le mot c'est agapé, comment il vit cet agapé auprès des autres. La foi, ça pense à sa relation avec Dieu, entretenir sa foi. Et puis, pureté, notamment dans les pensées, les relations avec le sexe opposé, par exemple. Voilà les choses à travailler, à s'entraîner. La langue, le comportement, la relation avec les autres, la relation avec Dieu, la pureté dans les pensées et dans les actes. Et si Timothée fait ça, il peut être un modèle. Et une bonne partie du travail ministère pastoral, c'est modeler, c'est être un exemple qui inspire d'autres à suivre. Et c'est comme ça qu'on forme. Et c'est le travail de tout coach et de tout entraîneur. Ils ont peut-être eux-mêmes, ils peuvent montrer comment faire. Et ça inspire une nouvelle génération à suivre aussi. Donc, priez pour les pasteurs, priez pour leur piété, prier pour leur relation avec Dieu. C'est précieux. Prier pour leur régime, prier pour leur exercice et enfin prier pour leur endurance. Ça, dans tous les sports, c'est ce qu'il faut. Il faut de l'endurance. Si on fait du foot, il faut tenir jusqu'à la fin du match. Si on fait une course, il faut courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Si on fait une séance de crossfit, il faut faire tous les exercices. Et on fait du sport pour augmenter l'endurance et pour pouvoir faire plus et aller plus loin. Et c'est ce que Paul souhaite pour Timothée. Continue dans ces choses, persévère, c'est ce qu'il dit dans le dernier verset, verset 16, persévère dans ces choses. Donc priez pour les pasteurs et leur endurance. Et là, on a un petit aperçu, verset 14. Petit aperçu de la manière que l'on devient ministre de Jésus-Christ. Verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alors on se demande, c'est quoi le don qu'a Timothée? Ça ne nous précise pas, c'est une espèce d'équipement spirituel pour faire le travail à laquelle Dieu l'appelle à faire. Un don d'enseignement, un don de pasteur, un don d'évangéliste, on ne précise pas. Mais il est ministre de Jésus-Christ, il a un don qu'il doit ne pas négliger. Et visiblement, il y avait un collège d'anciens, il y avait des personnes mûres dans la foi, ces anciens, qui ont reconnu chez Timothée un don et qui l'ont consacré au ministère. C'est un peu l'expression « imposer les mains » dans la Bible, c'est quand on reconnaît une personne et qu'on le charge, qu'on l'envoie dans le ministère. Donc Timothée a vécu ça. Et maintenant, Paul le dit, ne néglige pas ce don, ne néglige pas cet appel. Et là encore, l'image du sport revient, ou bien la musique. On peut avoir un don naturel en tant qu'athlète, ou un don naturel en tant que musicien, mais on peut aussi négliger ce don si on persévère pas dans les entraînements. On peut avoir un don naturel, mais aussi, comme tout musicien ou tout sportif, on veut progresser. Et j'aime bien ce qu'il dit à Timothée, occupe-toi de ces choses, verset 15, donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est un verset qui est à la fois stressant et à la fois rassurant pour un pasteur. Stressant parce qu'il doit progresser. Et sa vie est visible de tous, de toute l'Église, alors il faut qu'il progresse. Et il peut être encouragé à progresser. Mais c'est aussi rassurant, notamment pour un jeune, parce que il va progresser, il peut progresser, il ne va pas tout faire parfaitement tout le temps. Et il a lui-même besoin d'apprendre et de progresser, comme dans un sport. Persévère dans ces choses. Voilà l'encouragement que Paul dit à Timothée. Et il me semble que là, il a en tête une vision long terme du ministère pastoral. Persévère dans ces choses quand... En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc Timothée, s'il persévère, s'il enseigne fidèlement la Bible, semaine après semaine, mois après mois, ça va préserver, ça va garder cette Église. C'est sûr qu'on peut être touché par un message, touché par un orateur de passage, mais ce qui va vraiment impacter les vies, ce qui va apporter la santé dans une Église, c'est un ministère fidèle dans le temps des responsables d'Église. Et c'est ce dernier verset qui nous interpelle, qui m'interpelle. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça, c'est mystérieux, c'est fort comme verset. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, Timothée, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Qu'est-ce que ça veut dire, tu te sauveras toi-même? Sachant qu'on est d'accord, un pasteur n'est pas un sauveur, il ne peut pas se sauver. C'est ce que nous annonçons, c'est ce que nous rappelons chaque dimanche par nos chants, par la Sainte Cène, que le seul sauveur c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. Paul l'avait dit en verset 10, nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, c'est lui le sauveur. C'est le Dieu vivant qui est sauveur. Un pasteur n'est pas un sauveur. Un pasteur ne peut pas se sauver. Jésus est le seul pasteur parfait, il est le seul sauveur. Les hommes, ils vont se tromper dans leur enseignement, mais Jésus, il est la vérité, lui, il va nourrir toujours parfaitement. Les hommes vont faillir dans leur piété, mais Jésus était l'exemple parfait, la sainteté parfaite même de Dieu. Les hommes vont se fatiguer dans la course, se mettre sur la touche, avoir du mal à persévérer, mais Jésus, lui, il a persévéré jusqu'au bout pour notre salut. C'est pour ça que un pasteur fait toujours bien de pointer les regards de son assemblée vers Jésus-Christ, pour que l'Église se nourrit de lui principalement. Mais j'aime bien ce verset parce que ce verset rappelle qu'un pasteur et un ministre de l'Évangile a aussi besoin de l'Évangile dans sa vie. En agissant ainsi, en exposant ces choses, en enseignant ces choses, en vivant comme ça, tu te sauveras toi-même. Un pasteur a besoin de l'Évangile. Un ministre n'est pas plus près de Dieu qu'un autre membre d'Église. Un ministre n'est pas plus spirituel, il n'a pas un meilleur accès à Dieu, comme on a pu parfois penser dans certains systèmes ou héritages catholiques. Donc un pasteur a autant besoin de l'Évangile qu'un autre. Pareil pour tous les serviteurs, tous les responsables d'Église. Et de pouvoir prêcher et d'entendre régulièrement l'Évangile, c'est salutaire pour celui qui le fait et pour ceux qui écoutent. De pouvoir prêcher et entendre régulièrement l'Évangile, c'est ce qui garde, ce qui fait persévérer une Église et les responsables d'Église. Alors quand vous priez pour l'endurance des pasteurs, priez que l'Évangile les encourage eux-mêmes à continuer. Priez qu'eux-mêmes puissent regarder à Jésus-Christ. Priez qu'eux ne font pas de leur ministère une source de justice. Un pasteur donnait ce conseil, si vous comptez sur la qualité de vos messages pour vous justifier auprès de Dieu, tous les dimanches soirs, vous allez vous torturer, vous allez vous déprimer. C'est Jésus-Christ qui nous sauve, nous tous, parce que lui, il a fait. Priez pour les pasteurs ainsi. Alors j'aimerais vous remercier pour vos prières, votre soutien fidèle dans notre Église. Merci pour toutes les manières que vous nous soutenez. Et on peut encore, en tant qu'Église, prier pour d'autres pasteurs, d'autres ministres de Jésus-Christ, d'autres missionnaires, d'autres évangélistes qui travaillent fidèlement. La Bible nous encourage à prier qu'il y ait une nouvelle génération, qu'il y ait des jeunes qui se lèvent. Dieu est le maître de la moisson. Et on est mandaté à prier pour qu'il y ait des nouveaux envoyés dans le champ pour porter l'Évangile. J'aime bien ce que Luther a dit, on l'a dit au concert l'autre jour, c'est une phrase qu'il a dit qui m'a marqué. Luther a dit, c'est lui qui a beaucoup travaillé et combattu, comme Paul dit, mais il a dit finalement, je n'ai rien fait, c'est la Bible qui a tout fait, c'est la parole de Dieu qui a tout fait. Pendant que j'étais avec mes amis au café, c'est la Bible qui a bouleversé l'Europe, Et c'est fort de l'entendre dire parce que lui, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup combattu, sa vie c'était du sport. Mais finalement, il sait, comme tout ministre, comme toute église peut savoir que c'est la Bible, c'est l'Évangile, c'est la Bible lorsqu'elle est prêchée et vécue et enseignée qui fait le travail. Et c'est comme ça que notre église aussi va avancer.